elle, et ce qu'est un idolâtre dans le travail. Nos sages ont dit à propos du verset Shabbat, il n'y aura pas de Dieu étranger en vous, et vous ne vous prosternerez pas devant un Dieu étranger. Quel est le Dieu étranger dans le corps de l'homme? C'est le mauvais penchant. Cela signifie qu'un idolâtre est appelé mauvais penchant. Il s'ensuit que lorsque l'on parle d'un seul corps, alors l'idolâtrie qui est appelée un dieu étranger ou un dieu étranger est entièrement à l'intérieur de l'homme. En conséquence, nous devons discerner l'idolâtrie chez la personne elle-même, qui est le mauvais penchant, et le discernement d'Israël, qui est le bon penchant. Cependant, nous devons comprendre pourquoi ce penchant, qui tente de se réjouir et de profiter de la vie, est appelé mal. Après tout, il dit à un homme, si tu m'écoutes, tu profites de la vie. Alors, pourquoi est-il appelé mauvais penchant ou Dieu étranger? En outre, quel est le lien entre l'idolâtrie et le mauvais penchant? Et pourquoi est-il appelé divin? Et pourquoi le sert-on et se prosterne-t-on devant lui lorsque l'on sert l'idolâtrie? Nous savons qu'il y a deux rois dans le monde. Un, le roi de tous les rois. Deux, un roi vieux et insensé, signifiant le mauvais penchant, Yetzerara. On l'appelle aussi deux autorités. Un, l'autorité du Créateur. Deux, l'autorité de l'homme. Nos sages ont dit que lorsqu'un homme naît, il naît immédiatement avec le mauvais penchant. Comme il est écrit, le péché est tapis à la porte. Dans le Zohar, cela signifie que dès que l'on sort du sein maternel, le mauvais penchant vient à lui. Dans le travail, nous devons interpréter qu'immédiatement, dès le jour de la naissance, l'homme travaille et sert le mauvais penchant en lui avec son cœur et son âme. Cependant, nous savons que le mauvais penchant n'est que le désir de recevoir en nous, comme expliqué dans l'introduction au livre du Zohar. Et dès que l'on naît, son seul but est de servir le désir de recevoir. Cela signifie que tous ses sens se concentrent sur la manière de servir le roi vieux et insensé. Aussi, il s'incline devant lui. Et s'incliner signifie qu'il lui soumet sa raison et son esprit. Cela signifie que parfois il entend dire qu'il faut servir le roi de tous les rois. Et parfois, l'esprit et le cœur décident que la raison pour laquelle nous sommes nés n'est pas pour servir le désir de recevoir. Et pourtant, il capitule devant cette idée en disant, bien que ma raison me montre qu'il ne vaut pas la peine de travailler et de servir le désir de recevoir toute ma vie, mais qu'il vaut mieux servir le Créateur, je vais au-dessus de la raison. En d'autres termes, le corps me dit, Abandonne tout ce que tu as reçu des livres et des auteurs que tu dois servir le Créateur. Au contraire, tel qu'hier, aujourd'hui, ne défie pas le désir de recevoir, mais sers-le de tout ton cœur et de toute ton âme. Il s'ensuit que l'homme s'incline devant le désir de recevoir, car se soumettre à la raison s'appelle s'incliner. Et ceci est considéré qu'un homme sert un dieu étranger, qui est étranger à l'Akdusha. Également, il est appelé un dieu étranger, car il est étranger à l'Akdusha. À ce moment-là, la personne qui le sert est appelée étranger ou idolâtre, et c'est le dieu étranger dans le corps d'un homme. En d'autres termes, le dieu étranger n'est pas quelque chose d'extérieur. Il sert quelque chose en dehors de son propre corps. On pense que cela est en fait considéré comme un acte d'idolâtrie. Au contraire, le fait de servir et de travailler pour son corps, qui est appelé le désir de recevoir à l'intérieur du corps de l'homme, est un acte d'idolâtrie. Et cet homme est appelé un l'équivalence de forme. Une personne doit également être un donneur, et cela s'appelle la Kdusha, sainteté. Il s'ensuit donc que celui qui sert et travaille pour le désir de recevoir crée un objet, c'est-à-dire que c'est son Dieu. Il souhaite servir uniquement cela de son cœur et de son âme, et dans tout ce qu'il fait, même un acte de don, il considère que même en l'acte de don, il n'en tira de bénéfice qu'en fonction de son désir de recevoir. Il ne détourne pas son attention de cela, mais il s'accroche à sa foi que c'est tout ce qui doit être servi. Même si son esprit décide que cela ne vaut pas la peine de le servir, il n'a toujours pas le pouvoir de trahir son Dieu, qu'il sert depuis le jour de sa naissance. C'est pourquoi on l'appelle foi, puisqu'il sert son désir de recevoir au-dessus de la raison. Il n'y a aucune raison au monde qui puisse le détacher et le séparer de l'adhésion qui lui est attachée depuis le jour de sa naissance. C'est ce qu'on appelle un goy ou un étranger. Israël signifie le contraire d'un dieu étranger, c'est-à-dire Yachar, quel droit à Dieu. Cela signifie que sa seule intention est que tout aille directement au Créateur. En d'autres termes, sa seule pensée et son seul désir est de venir directement à la dvikut au Créateur. Et il ne veut pas écouter la voix du désir de recevoir. Il dit que le nom qu'on a donné au désir de recevoir, mauvais penchant, yetzer hara, lui convient, parce que il ne fait que lui faire du mal. En d'autres termes, plus il essaye de satisfaire son souhait pour que cela n'entrave pas son travail de servir le Créateur, bien au contraire, c'est-à-dire qu'il assure constamment de lui donner ce qu'il exige de lui. et il le lui donne parce qu'il pense qu'en agissant ainsi, cela cessera de le déranger. Mais alors, nous voyons exactement le contraire. Ce bénéficiaire devient en réalité plus fort en satisfaisant ses besoins, ce qui signifie qu'il devient encore plus mauvais. Et maintenant, il voit à quel point nos sages avaient raison lorsqu'ils disaient, Bereshit Rabba, ne faites pas de bien à celui qui est méchant. C'est-à-dire, ne faites pas de bien à quelqu'un de méchant. Il en va de même pour nous, qui apprenons tout en un seul homme. Le sens sera qu'il est interdit de faire du bien au désir de recevoir, qui est le mauvais penchant. Car de tout bien qu'une personne lui fait, elle a plus tard plus de force pour lui faire du mal. Et c'est ce qu'on appelle rendre une faveur au mal. Ils sont comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire que dans la mesure En outre, l'abondance supérieure peut simplement être appelée Neshama, âme. Et le receveur de la Neshama est appelé Gouf, corps. Mais ce ne sont pas des noms fixes. Mais cela dépend du contexte. Ainsi, qui fait obstacle aux délices et aux plaisirs susmentionnés? C'est seulement le désir de recevoir. Il fait obstruction et ne nous fait pas sortir de son autorité, appelée recevoir afin de recevoir. C'est sur ce discernement qu'a eu lieu le Tzimtzum, corriger les récipients de réception afin qu'ils soient afin de donner sans réserve, moment auquel il sera comme le donneur. Et ici, il y a une équivalence de forme appelée dvekut, adhésion. À ce moment-là, à travers la dvekut au Créateur, une personne est considérée comme vivante, puisqu'elle est attachée à la vie des vies. Et grâce au receveur en lui, il est séparé de la vie des vies. C'est pourquoi nos sages ont dit, les méchants dans leur vie sont appelés morts. Ainsi, il est clair qui nous empêche de recevoir la vie. C'est seulement le receveur en nous. Et nous devons le déterminer à travers le calcul susmentionné. Il s'avère que c'est là la cause de toutes les douleurs et ennuis dont nous souffrons. De toute évidence, le surnom de « mauvais penchant » lui convient, puisque il est la cause de tous nos ennuis. Imaginons un homme malade qui veuille vivre. Il n'y a qu'un seul remède qui puisse lui sauver la vie, par lequel il sera récompensé de la vie, sans quoi il devra mourir. Et il y a une personne qui l'empêche de prendre ce médicament. De toute évidence, cette personne est appelée un homme méchant. C'est la même chose pour nous. Quand on apprend que c'est seulement par le désir de donner sans réserve qu'il est possible d'être récompensé de la vie spirituelle, que c'est là que se trouvent les véritables délices et plaisirs, et que ce désir de recevoir nous retient de recevoir, comment allons-nous le voir? Bien sûr, nous devrions le voir comme l'ange de la mort. Autrement dit, il nous empêche de recevoir la vie. Lorsqu'une personne réalise cela, que notre receveur est le mal en nous et souhaite être Israël, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas commettre l'idolâtrie, qui est le mauvais penchant dans le corps de l'homme, et souhaite se repentir d'avoir commis l'idolâtrie tout ce temps, et souhaite être un serviteur du Créateur. Dans cet état, lorsqu'il souhaite sortir de la domination du mauvais penchant, que doit-il faire? À cela, il y a la réponse que nos sages ont dit. Ainsi dit le Créateur à Israël, « Mes fils, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé pour lui l'épice de la Torah. Si vous vous engagez dans la Torah, vous ne serez pas livré entre ses mains, comme il est écrit, si vous faites le bien. Et si vous ne vous engagez pas dans la Torah, vous serez livré entre ses mains, comme il est écrit, le péché est tapis à la porte. En d'autres termes, seul l'engagement dans la Torah a le pouvoir de sortir de la domination du mauvais penchant et d'entrer dans l'Akdusha. Il s'ensuit donc que celui qui s'engage dans la Torah, lorsqu'il parle du travail, le but de l'étude doit être clair pour une personne, c'est-à-dire la raison qui le pousse à s'engager dans la Torah. Il en est ainsi parce que il y a deux opposés dans la Torah, comme l'ont dit nos sages. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, pourquoi est-il écrit? Et ceci est la loi que Moïse a établie. S'il est récompensé, cela devient pour lui un élixir de vie. S'il n'est pas récompensé, cela devient pour lui une potion de mort. Pour cette raison, lorsqu'une personne s'engage dans la Torah, elle doit veiller à ce que la Torah ne l'amène pas à la mort. Cependant, il est difficile de comprendre comment il peut y avoir une telle distance entre être récompensé et ne pas être récompensé, au point que l'on dit que s'il n'est pas récompensé de s'engager dans la Torah, cela devient pour lui une potion de mort. Ne suffirait-il pas qu'il ne soit pas récompensé? Pourquoi est-il encore pire que celui qui n'est pas du tout engagé dans la Torah? Autrement dit, celui qui ne s'est pas engagé dans la Torah n'a pas de potion de mort, et celui qui s'est engagé dans la Torah a obtenu en échange de son travail la mort. Une telle chose peut-elle exister? Cette question est présentée dans l'introduction au Talmud des Sfirot. Cependant, leur parole nécessite une explication pour comprendre comment et par quoi la Torah devient pour lui une potion de mort. Non seulement son travail et ses efforts sont vains, et il ne tire aucun bénéfice de son travail et de son effort. Mais la Torah et le travail eux-mêmes deviennent pour lui une potion de mort. C'est effectivement déroutant. Dans l'introduction au Talmud des Sfirot, puisque le Créateur se cache dans la Torah, puisque la question des tourments et des douleurs que l'on éprouve pendant la dissimulation de la face n'est pas la même entre celui qui possède peu de péchés et a fait peu de Torah et de mitzvot, est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé dans la Torah et les bonnes actions. Le premier est tout à fait qualifié pour juger favorablement son Créateur, pour penser que la souffrance lui est venue à cause de ses péchés et de la rareté de la Torah. Pour l'autre, en revanche, il est beaucoup plus difficile de juger favorablement son Créateur. C'est pareil pour nous. Lorsqu'il place le but devant ses yeux, cela signifie que celui du haut souhaite ravir ses créatures. Mais, pour éviter la honte, nous devons avoir des récipients de dons sans réserve. Et puisque nous sommes nés avec le désir de recevoir, qui est considéré comme un Dieu étranger, que nous servons au-delà de la raison et qui nous a servi, et que nous ne pouvons pas sortir de son pouvoir, nous croyons en nos sages qui ont dit, le Créateur a dit, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé l'épice de la Torah. C'est la raison qui pousse l'homme à s'engager dans la Torah. Et alors, la Torah lui donne la vie. En d'autres termes, grâce à la Torah, il sort de la domination du mauvais penchant et devient un serviteur du Créateur, ce qui signifie que son intention est uniquement d'apporter du contentement à son Créateur. Et il sera récompensé de Dvekut Hashem, l'adhésion au Créateur, ce qui signifie qu'à ce moment-là, il adhérera à la vie des vies. En effet, ce n'est que dans cet état, lorsqu'une personne étudie dans ce but, que la Torah est considérée pour elle comme un élixir de vie, puisque grâce à la Torah, elle sera récompensée de la vie. Et pourtant, à ce que tout ce qu'ils font soit destiné uniquement à servir le Créateur, ceux qui travaillent pour le receveur souhaitent que le Créateur les serve. Tout ce dont leur receveur a besoin, le Créateur devrait le satisfaire. Il s'ensuit qu'ils travaillent à l'opposé de ceux qui veulent être récompensés de la vie par leur engagement dans la Torah. Par conséquent, nous pouvons comprendre ce que nous avons demandé sur la raison pour laquelle Rabbi Ami a dit « La Torah ne doit pas être donnée aux idolâtres ». Si cela est dans le travail, c'est-à-dire dans la personne elle-même, et qu'elle travaille dans un état d'idolâtrie, la raison pour laquelle il est interdit d'apprendre est que cela ne sert à rien. En effet, dans le travail, nous apprenons que nous devons étudier la Torah afin de sortir de l'emprise du mauvais penchant. Mais s'il ne veut pas se libérer de l'esclavage du mauvais penchant, pourquoi a-t-il besoin de la Torah? Il s'ensuit que si on lui donnait la Torah, cela ne servirait à rien. C'est une perte de temps pour celui qui va lui apprendre. Cependant, Rabbi Yohanan ajoute à Rabbi Ami, non seulement cela ne sert à rien, mais si un idolâtre s'engage dans la Torah, cela lui fera du mal. Il risque son âme, car pour les idolâtres, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah sans avoir pour objectif de sortir de la domination du mauvais penchant, mais qui souhaitent y rester et le servir volontairement, cela s'appelle l'idolâtrie. À ce sujet, il est écrit « Un Dieu étranger dans le corps de l'homme ». Ainsi, il prend pour lui la potion de mort. C'est pourquoi Rabbi Yohanan a dit « Un idolâtre qui s'engage dans la Torah doit mourir ». Cela signifie qu'il risque son âme, car la Torah sera pour lui une potion de mort. Elle, et non les idolâtres. Nous devrions interpréter ce que dit Rabbi Meir. Un idolâtre qui s'engage dans la Torah, comme faisant référence à ce que nous avons expliqué ci-dessus, l'intention de Rabbi Meir est qu'une personne se rende compte qu'elle est un idolâtre, qu'elle voit que depuis le jour de sa naissance jusqu'à maintenant, elle a servi des idoles, un dieu étranger, c'est-à-dire le mauvais penchant qui est à l'intérieur du corps de l'homme. Il voit à quel point il est asservi et sous son contrôle et qu'il n'a aucune force pour défier sa parole. Et bien qu'il comprenne souvent avec son esprit et sa raison que cela ne vaut pas la peine de le servir, mais qu'au contraire, le mauvais penchant devrait servir la Kdusha. Néanmoins, il soumet sa raison et le sert comme s'il réalisait que cela vaut la peine de le servir. Lorsqu'une personne en vient à s'en rendre compte, lorsqu'elle voit qu'il n'y a aucune puissance au monde qui puisse l'aider, et qu'elle voit qu'elle est perdue, et qu'elle sera retranchée de la vie pour toujours, pour se délivrer de la mort, étant le méchant dans leur vie, ils sont appelés morts. Dans cet état, il en vient à croire les paroles de nos sages. Ils dirent, voici ce que le Créateur a dit à Israël. Mes fils, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé pour cela l'épice de la Torah. Si vous vous engagez dans la Torah, vous ne serez pas livrés entre ses mains. C'est à propos de ce genre d'idolâtre que Rabbi Meir a dit qu'il était comme le grand prêtre, et il apporte comme preuve qu'il est écrit, si un homme les fait, il vivra par elle. Il interprète que si quelqu'un s'engage dans la Torah pour vivre selon elle, si la raison de son engagement de la Torah est qu'il souhaite être récompensé par la vie et ne pas être un méchant, un idolâtre, qui est un dieu étranger, dans un sens, mais que son seul objectif est d'être récompensé par la vie, ce verset, si un homme les fait, il vivra par elle, parle de lui. En effet, il s'engage dans la Torah, s'il s'engage dans la Torah, il sera comme le grand prêtre, et pas seulement un prêtre, mais il sera prêtre, c'est-à-dire qu'il obtiendra la qualité de chesed, miséricorde, qui est appelé prêtre. Ce qui signifie qu'il sera récompensé par des récipients de dons. Il sera également récompensé par gadlut, qui est la grandeur ou l'âge adulte. C'est pourquoi il dit qu'il est comme le grand prêtre. En conséquence, nous devrions le demander pourquoi Rabbi Meir dit « même un idolâtre ». Comme nous l'avons expliqué, c'est le contraire, puisque un tel idolâtre est digne d'être grand prêtre. Nous pouvons expliquer et dire que le mot « même » signifie que même si une personne arrive à une telle humilité qu'elle voit qu'elle est vraiment un idolâtre, elle voit que jusqu'à présent, elle n'a rien gagné dans sa vie, mais qu'elle a seulement servi son mauvais penchant. En d'autres termes, toutes ses pensées et tous ses désirs ont été en faveur du destinataire. Il n'a même pas touché le chemin de la vérité, c'est-à-dire qu'il a eu la capacité de croire au-dessus de la raison au Créateur. Mais c'est seulement selon ce que la raison du receveur lui a permis de voir qu'en travaillant spécifiquement pour elle, elle lui donnera de l'énergie pour s'engager dans la Torah et les mitzvot. À une telle personne, Rabbi Meir vient et dit « Ne regrettez pas cette bassesse, mais vous devriez croire que même lorsque vous êtes arrivé à un niveau si bas, le Créateur peut toujours vous aider à sortir de l'exil. » Vous êtes sous son contrôle pendant tout ce temps. La raison est donc contraire. Le sens de ce qui est dit, même si le monde est d'accord. Cependant, en réalité, la Torah n'est nécessaire que maintenant. Ce n'est que maintenant que vous avez les vrais kélim, un vrai besoin que le Créateur vous aide, puisque vous êtes parvenu au point de vérité. Comme ont dit nos sages, le penchant de l'homme augmente chaque jour. Sans le Créateur, il n'y arriverait pas. Maintenant, il voit la vérité, à savoir qu'il a vraiment besoin de l'aide du Créateur. Chochma, sagesse. Tout d'abord, nous expliquerons ce qu'interprète le Zohar à propos du discernement de Jacob. Il est dit un vak, deux, les femmes, trois, Din, le jugement. 4. Un degré révélé, le degré inférieur, le degré littéral. L'ordre du travail qu'une personne doit commencer pour atteindre son objectif est de connaître son état dans le travail du Créateur et quel est le but qu'elle doit atteindre. En d'autres termes, quelle est la plénitude qu'une personne doit atteindre? Le premier état qu'une personne sache est qu'elle est un idolâtre, appelé idolâtre. C'est le mauvais penchant qui existe dans le corps de l'homme. On l'appelle un dieu étranger ou un dieu étranger. Il s'agit de clarifier son état, là où il se trouve réellement, qu'il est véritablement dans un état d'idolâtrie. Cependant, il faut faire de grands efforts pour voir la vérité, car il est impossible d'atteindre la vérité sans la Torah et le travail, comme ont dit nos sages. De l'olishma, par en son nom, on en arrive à l'ishma, en son nom. Dans un état de l'olishma, lorsqu'un homme fait des efforts dans la Torah et qu'il travaille, il est dans la nature de regarder les gens qui l'entourent. Et il voit qu'il n'y a personne d'autre comme lui, consacrant autant d'heures au travail du Créateur. Dans cet état, il se sent supérieur aux autres, ce qui lui fait oublier son objectif. Ce qui signifie que l'essentiel est d'atteindre l'Ishma. C'est parce que les gens de l'extérieur lui ont fait ressentir Shlemut, la plénitude. Et cette Shlemut est la raison pour laquelle il ne peut pas se sentir dépourvu de son objectif principal, atteindre l'Ishma. C'est particulièrement vrai s'il est respecté en tant que serviteur du Créateur. En effet, toutes les personnes qu'il honore lui inculquent leurs opinions pour qu'il croie ce qu'il pense de lui, qu'il est un homme très vertueux et sans aucun défaut. Ainsi, comment est-il possible qu'une personne dise d'elle-même qu'elle est dans un état d'idolâtrie, qu'elle n'est toujours pas circoncise? Il s'ensuit que sa dvekut omas, c'est-à-dire leur dvekut adhésion à sa Torah et à son travail, lui a apporté la plénitude. Dans le travail, cela s'appelle une prise sur les extérieurs. Et que perd-il à avoir cette prise? La réponse est que l'emprise est la raison pour laquelle il ne peut pas voir son véritable état, qu'il est toujours un idolâtre, et qu'il devrait demander conseil pour sortir de la domination du mal. Le deuxième état d'un homme est lorsqu'il se circoncit. Circoncision signifie qu'il coupe le prépuce. Le prépuce est composé des trois clipotes, coquille, écorce, pelure, des trois clipotes impures appelées vent orageux, grand nuage et feu ardent. Et le désir de recevoir vient de là. Cependant, il n'est pas en notre pouvoir de couper ce prépuce. Le Baal HaSulam a dit à ce sujet que le Créateur devrait aider un homme à couper le prépuce. Il est écrit à ce sujet. Et il fit alliance avec lui. Le sens de « avec lui » c'est que le Créateur l'a aidé. Cependant, l'homme doit commencer. Cependant, si nous disons qu'il ne peut pas se circoncire tout seul, alors pourquoi un homme devrait-il commencer si nous disons qu'il ne peut pas finir? Il semble que son travail soit vain. Cependant, nous savons qu'il n'y a pas de lumière sans cli, récipient. Et un cli est appelé un manque, chisaron. Car là où il n'y a pas de chisaron, il n'y a pas de satisfaction. Ainsi, une personne devant démarrer fait référence au chisaron, au manque. Cela ne signifie pas qu'une personne doive commencer par le remplissage. Lorsque nous disons « commencer », il s'agit plutôt de donner le besoin et le manque. Ensuite, le Créateur vient et comble le manque. C'est ce qu'on appelle « et a conclu une alliance avec lui ». Selon lequel le Créateur l'aide. Ceci est également considéré comme la ligne droite, ce qui est le sens de « Père donne le blanc », comme expliqué dans le Talmud des dix Sphirot. Cela signifie que lorsque la lumière supérieure brille, c'est-à-dire Or-Chochma, appelé Abba, le Père, il est possible de voir la vérité, à savoir que le prépuce, le désir de recevoir, est une mauvaise chose. Ce n'est qu'alors qu'il se rend compte qu'il faut rejeter l'amour propre. C'est l'aide qu'un homme reçoit du Créateur. Il parvient à reconnaître le mal. En d'autres termes, avant qu'une personne ne parvienne à la résolution qu'il ne vaut pas la peine d'utiliser le receveur, qu'elle ne peut pas utiliser les récipients de dons puisque l'un contredit l'autre. Pour cette raison, un homme doit se circoncire et alors il peut prendre sur lui le désir de donner sans réserve. Il s'ensuit que l'ablation du prépuce, appelée circoncision, vient avec l'aide d'en haut. En d'autres termes, c'est précisément lorsque brille la lumière supérieure qu'il voit sa bassesse, qu'il ne peut rien recevoir à cause de la disparité de forme. Dans les mondes, cela s'appelle « Père donne le blanc ». Et après avoir reconnu le mal, vient une deuxième correction. Il commence à travailler afin de donner sans réserve. Mais cela aussi nécessite une aide d'en haut. C'est ce qu'on appelle « sa mère donne le rouge ». Dans le Talmud des Sfirot, il interprète que cela est lié au désir de donner sans réserve, Hashpah. Il s'ensuit que le pouvoir d'annuler le désir de recevoir et le pouvoir d'accomplir des actes de don sans réserve sont donnés par le supérieur. Autrement dit, l'aide vient d'en haut. Cela soulève la question, que donne celui du bas? Puisque l'on dit que celui du bas doit commencer, par quoi commence-t-il pour qu'ensuite le Créateur lui apporte l'aide nécessaire? Comme il a été dit, tout ce que l'inférieur peut donner au Créateur, c'est le manque, pour que le Créateur ait une place à combler. En d'autres termes, celui qui souhaite être un serviteur du Créateur et non pas un idolâtre doit en venir à ressentir son humilité. Dans la mesure où il ressent cela, une douleur se forme progressivement en lui d'être si immergé dans l'amour propre, en réalité comme une bête, et de n'avoir aucun lien avec le discernement d'un humain. Pourtant, parfois une personne arrive à un état où elle peut voir sa petitesse et ne se soucie pas d'être immergée dans l'amour propre. Elle ne sent pas vraiment qu'elle est dans une telle bassesse au point d'avoir besoin que le Créateur la délivre à partir de cela. Dans cet état, la personne devrait se dire « Je ne suis pas inspiré par le fait que je suis comme une bête, ne faisant que des choses bestiales. Et ma seule préoccupation dans cet état est de demander au Créateur de me permettre de ressentir davantage de plaisir dans les plaisirs corporels. Et je ne ressens aucun désir autrement. Dans cet état, une personne devrait se dire qu'elle est désormais dans un état d'inconscience. Et si il ne peut pas prier pour que le Créateur l'aide, il n'y a qu'une seule solution, se lier avec des personnes dont ils croient qu'elles ressentent le défaut, qu'elles sont dans l'humilité et qui demandent au Créateur de les délivrer du trouble, du soulagement et des ténèbres à la lumière, bien qu'il n'ait pas encore été délivré par le Créateur qui les a rapprochés. Ensuite, il devrait dire, bien sûr, ils n'ont pas encore atteint leur cli de manque, appelé le besoin d'être délivré de cet exil. Cependant, ils ont probablement parcouru la majeure partie du chemin pour ressentir le véritable besoin. Ainsi, à travers eux, il peut aussi recevoir leurs sensations, ce qui signifie qu'il ressentira également de la douleur d'être dans la bassesse. Cependant, il est impossible de recevoir l'influence de la société s'il n'est pas attaché à la société, c'est-à-dire s'il ne l'apprécie pas. Dans la mesure où il le fait, il peut en recevoir l'influence sans aucun travail, simplement en adhérant. Cela signifie que les garçons sont appelés Rachamim et non Din. Comme il est écrit dans le Zohar, ainsi tu diras à la maison de Jacob, ce qui signifie que dire vient du côté de Din, et dit aux enfants d'Israël signifie que raconter vient du côté de Rachamim. Rashi interprète le verset, ainsi tu diras à la maison de Jacob, le nom Mechilta. Interprétation du livre d'Exode. Ce sont les femmes. Dites-leur avec un langage doux et parlez aux enfants d'Israël. Les garçons, les mots sont durs comme des tendons. Nous devrions interpréter les mots aux femmes, langage doux. Il a été mentionné ci-dessus que les femmes sont celles qui n'ont pas beaucoup de force pour vaincre, mais seulement contre les beaux kélim. Ceci est doux, ce qui signifie qu'il est doux et qu'il n'est pas si difficile de vaincre les récipients de dons. Mais les récipients de réception sont très difficiles à vaincre. C'est pourquoi les garçons, ceux qui sont dans un état de homme, qui ont le pouvoir de vaincre, ont été chargés de travailler dans des choses aussi dures que des tendons, c'est-à-dire des récipients de réception. Mais pourquoi le Zohar écrit-il que les garçons sont des rachamim? Plutôt, il est écrit « aussi durs que des tendons » et « dur » signifie « dire »,« din » et non « rachamim ». Par conséquent, d'un côté, il est dit que les garçons signifient aussi durs que des tendons. Et de l'autre, il est dit qu'ils sont des rachamim. Nous devrions également interpréter que les garçons ont également la force de vaincre les récipients de réception, qui sont difficiles à vaincre. Et en surmontant les récipients de réception, appelés Midat Hadin, la qualité du jugement, qui sont sur eux, il y a rachamim à cet endroit, et non din, un jugement. Mais chez les filles qui n'ont pas la force de vaincre, les récipients, qui n'ont pas la force de vaincre les récipients de réception, il y a midat hadin sur elles, et il leur est interdit de les utiliser. 4.
Afilo Un degré élevé est caché, considéré comme les secrets de la Torah. Caché signifie que même si une personne est déjà circoncise et a été récompensée littéralement, c'est-à-dire étant un simple juif, c'est-à-dire qu'elle est parvenue à un état où elle ne commet pas d'idolâtrie, mais sert le Créateur. La lumière de Chochma révélée sur les Kélim de réception lui est toujours caché. Mais celui qui a été récompensé avec le plus haut discernement, qui est un homme, et qui a également le pouvoir de vaincre les Kélim de réception, la lumière de Chochma appelée les secrets de la Torah, apparaît sur ces Kélim. C'est pourquoi le Zohar dit, et dites-le aux enfants d'Israël signifiant montrez Chochma et parlez dans l'esprit de Chochma, puisque raconter implique Chochma, comme il est écrit. Et il racontera leur son d'alliance. Il s'ensuit que le fait de dire qu'il est interdit d'enseigner la Torah aux idolâtres doit être interprété dans l'ouvrage, comme il est impossible d'enseigner la Torah aux idolâtres. Comme l'a dit Baal HaSulam, lorsqu'il parle du travail où il est écrit interdit, cela signifie ne peut pas. Mais après qu'il est circoncis, il y a deux degrés supérieurs et inférieurs, signifiant littéral et caché. Alors nous étudions les extraits des sources s'élevées au-dessus de la raison en préparation du Congrès mondial de Kabbale. 1. Rabash, il doit croire au-dessus de la raison et imaginer qu'il a déjà été récompensé de la foi en le Créateur, qui se ressent dans ses organes, et il voit et sent que le Créateur dirige le monde entier comme le bon qui fait le bien. Même si, lorsqu'il regarde dans la raison, il voit le contraire, il doit toujours travailler au-dessus de la raison et il doit lui apparaître comme s'il peut déjà sentir dans ses organes qu'il en est vraiment ainsi, que le Créateur dirige le monde comme le bon qui fait le bien. Ici, il acquiert l'importance du but et de là, il reçoit la vie, c'est-à-dire la joie d'être proche du Créateur. Alors, une personne peut dire que le Créateur est bon et fait le bien. On va continuer. Point 2. Baal HaSulam dit, en fait, il doit annuler sa propre autorité devant l'autorité du Créateur et dire que l'on ne peut pas vivre pour soi, mais que la seule et unique raison d'exister et de contenter le Créateur. Ce faisant, il annule complètement sa propre autorité et il se trouve par conséquent sous l'autorité individuelle qui est l'autorité du Créateur. Alors il peut seulement voir la vérité. Comment le Créateur dirige le monde en étant bon et bienfaisant. Mais tant que l'homme est sous l'autorité des autres, c'est-à-dire que son esprit et son cœur sont gouvernés par deux désirs, il est incapable de voir la vérité. Mais alors, il faut aller au-dessus de la raison et dire, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Qui va nous aider à comprendre ce qui est écrit ici? Pourquoi, lorsqu'il fait une action, on lui conseille de faire, d'aller au-dessus de la raison, de considérer le Créateur d'une façon différente, les amis, le monde. Qu'est-ce que cela change? Pourquoi tout d'un coup il voit tout à l'envers? Et que tout à coup il voit ce monde réel et avant non? S'il vous plaît.
Ken.
Ce qui arrive, c'est que l'homme change son but dans la vie. À la place de se remplir, de se satisfaire, il veut adhérer au Créateur. Et lorsqu'il s'annule, ainsi qu'on vient de lire dans l'extrait qu'il réussit, on dirait, à adhérer au Créateur, alors il dit que le Créateur est bon et bienfaisant. Oui. Ça, c'est juste. Même s'il ne réussit pas. Oui, Doudi, je peux poser une question sur ce que nous venons de lire, sur la question au sujet de la raison. Oui, dans quoi la dizaine aide l'homme à s'élever au-dessus de la raison? Quelle est sa force de faire sortir l'homme vers au-dessus de la raison? Rav, c'est une question qui doit être posée à vous, pas à moi. Dans quoi la dizaine aide l'homme à acquérir un degré au-dessus de la raison? Oui. De se renforcer dans ce degré? Oui. Qui veut répondre?
Ken.
Aussi hier, dans l'écrit que nous avons lu, il ouvre une fenêtre. Il dit, si l'homme est déconnecté complètement, ce n'est que l'importance de la société qui peut l'aider à s'élever. Oui, il y a ici une question de, au-dessus de la raison, il faut une certaine importance, parce que le Créateur est caché, est voilé, est caché. Oui, entre la spiritualité et le matériel, il y a quelque chose au milieu qui peut être connecté au physique et au spirituel. Et c'est la société. Et c'est ainsi, alors que nous nous connectons à la société, nous sommes prêts à l'utiliser. Ici, je suis désolé de dire, mais on l'utilise et nous pouvons nous élever de ce monde au monde supérieur. En fin de compte, nous pouvons nous accrocher à la société de différentes façons, physiques et spirituelles. Et alors, nous avons ici un choix des moyens. De ce que nous pouvons faire. Et c'est pourquoi, exprès, grâce à la société, nous pouvons nous élever. Si on peut continuer, continuer avec la question, quelle est la différence de la force de la dizaine pour s'élever et, disons, du congrès mondial alors qu'on se réunit au congrès? Il n'y a aucune différence. La différence est dans la puissance que le Kli mondial, si vous êtes dans l'union, alors, il y a une puissance bien plus grande que la dizaine. Quelle force l'homme peut atteindre au congrès pour s'élever au-dessus de la raison? Différence de du travail habituel dans la dizaine. Tout d'abord, il s'unit à un cli bien plus puissant. Et maintenant, tout dépend de lui, jusqu'à quel point il est capable d'agir et son cli pour se connecter entre eux et de la sorte s'élever. Ou bien tu...
Citroën
4.
C'est
le lieu, je pense, où ils étaient avant Bnei Baruch. C'est vraiment un miracle. Moderne. Et c'est la différence. Pour le kabbaliste, ce n'est pas important, c'est pas si important. La différence, l'essentiel pour lui, être dans ça, utiliser le moyen. De quoi dépend ici, qu'est-ce qui dépend de l'homme ici? L'homme doit tout faire, ou bien ou il s'annule par rapport à ce moyen, ou pas. Ou alors, ça dépend quel est ce moyen qu'il utilise. Oui, mais maintenant, nous aussi, nous pouvons être sur dans ce même point moderne, rapide. On peut absorber des forces du climat mondial. On n'a pas besoin d'un congrès. À partir de ce moment, ensemble avec le climat mondial et l'effort au congrès, quelle est la différence? Oui, mais alors là, la base, ça sera un clé bien plus fort, plus puissant. Parce que toi, tu peux unir ta charrette, pas à Citroën, avant c'était Citroën le mot, mais à Mercedes, la voiture Mercedes, ou autre. Pourquoi je ne peux pas faire ça maintenant pour m'unir? Tout dépend par rapport à quoi tu t'annules. Ma question est sur le temps, la position. Quelle est la différence de cette situation et au congrès? Pourquoi on ne peut pas mériter quelque chose maintenant, même plus? Oui, mais le fait que les gens viennent à un même endroit, participent ensemble, et qu'ils veulent être vraiment connectés entre spiritualité et matérialité, c'est une puissance, c'est une force. Dans une semaine à peu près et demie, on sera ensemble au congrès, le Kli mondial. Qu'est-ce que nous pouvons, nous tous, Kli mondial, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce congrès? Quel saut spirituel pouvons-nous faire maintenant, Rav? Que nous prenons tous nos désirs et nos pensées, nos buts de tous nos amis, avec toute leur intériorité, et que malgré tout se trouve là-bas, et on élève tout à ce même but, et tous s'unissent ensemble. comme un seul cli, et nous pouvons nous en réjouir, nous tous, de ce achap, de ce cli qui est, qui se trouve, autant que nous allons nous élever vers lui, nos kelim, et que nous voudrons les unir, alors en fin de compte, nous agissons sur Galgalta Enaim, à cette union de tous ces kelim, de tous ces récipients, on les élève bien plus haut. Et c'est ainsi qu'on atteint la lumière. Qu'est-ce que c'est que atteindre ce degré de la foi au-dessus de la raison? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Atteindre
la sig
atteindre une sécurité, une assurance que la foi, le degré de la foi est plus important que l'atteinte. Le degré de la foi est plus important que l'atteinte. On pense que c'est quelque chose que ça vaut vraiment la peine, le désir de recevoir. C'est sûr que ça vaut ce désir de recevoir, mais pas avant cette transition. Si le désir de recevoir pouvait comprendre qu'il gagne de ce changement dans les kelim, c'est sûr qu'il aurait été pour, mais il ne voit pas ça, et de ce fait, il nous donne à nous connecter à ce degré dans le don uniquement, que nous pouvons nous déconnecter des kelim de réception et nous connecter aux kelim de don. Nous, les amis, nous pouvons donner de la sécurité ou soutenir les uns les autres qu'il y a un gain dans la foi au-dessus de la raison. Un gain, oui, mais ça dépend en quoi. Que ce n'est pas un gain physique, ce n'est pas un gain dans ces mêmes kelim, dans ces mêmes discernements, préparations, compréhension, notre compréhension, c'est pas le même gain, le même profit. C'est un profit dans l'atteinte de la force qui, du don. Que nous disons dans notre monde, il y a la force du don, il est derrière toutes les actions. Et nous voulons révéler cette force. Mais pour ce faire, nous devons changer pour le ressentir, pour l'attirer. Il se trouve derrière tous ces blocs que notre monde est composé. Mais comment nous allons nous connecter avec eux? Oui, alors la foi, c'est la connexion à une unique force, disons. Oui, merci. Pour l'instant, c'est plus facile.
Rav,
vous avez parlé que il y a une étape de réalité entre le physique et le spirituel, c'est la société. Et de la société, nous recevons l'importance de la grandeur du Créateur. Et c'est quelque chose qui est très important. pour progresser. Mais malgré tout, il y a une possibilité que cette importance et la grandeur qu'on reçoit de la société ne soit pas dans la direction du don. On peut tomber ou bien et s'en réjouir. J'ai pas compris ce que vous y représentez. Moi, si je me réjouis de la grandeur du Créateur des amis, alors ça peut être égoïste. Oui, exactement. Alors comment est-ce possible d'utiliser cette force dans la direction du don et ne pas tomber de façon égoïste alors qu'on reçoit la grandeur et la gloire pendant le congrès? Comment on peut utiliser toutes ces forces de la société pour que tout soit dans le but de donner? Uniquement à la condition que tu parles avec, tu les éveilles et qu'ils sont prêts à une certaine élévation spirituelle. Ça veut dire leur donner envie, les réchauffer et de faire avec ça un certain travail. Oui, et la préparation de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit être? En quelle intention il doit être alors qu'il reçoit cette grandeur? Qu'est-ce que chacun doit faire alors qu'il reçoit l'importance de la spiritualité? Si tu vois devant toi une représentation spirituelle, tu dois t'annuler. Tu as une opportunité et de la sorte, il se connecte à cette même représentation, à ce même don spirituel. Mais lorsqu'il se connecte maintenant à cette influence spirituelle, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas tomber? Rien. Et qu'est-ce qu'il peut prier, faire dans cette union avec les amis que pour progresser, uniquement s'unir et attirer encore et encore des amis jusqu'à ce qu'on devienne une seule union. Et jusqu'à la prochaine ascension, et ceci de degré en degré, et ceci devient de plus en plus difficile aussi. Il est écrit que, au point de la première phrase, l'homme doit annuler sa propre autorité devant l'autorité du Créateur. La sensation que tu ne peux pas de se faire face à ce point. Est-ce qu'on doit le faire, se faire face à ce point-là? Non, toi tu ne peux pas, mais il t'écrit encore. Continue avec lui dans la lecture. Et tu verras la transition de ta perception envers toi-même, la perception de toi-même vers la perception spirituelle. Et tu pourras faire un saut dans ce train qui te mène. Oui, mais si tu dois faire un premier pas, et que toi, tu vois que tu n'es pas capable de faire ce pas. Oui, pour l'instant. Alors la question, je répète, on doit se maintenir qu'on ne peut pas faire ce pas? Rav, mais... Et attendre la miséricorde. Miséricorde, c'est une condition du Créateur qui vient en résultat des actions de l'homme. C'est un grand effort de comprendre qu'on n'est capable de rien faire vers cette vérité. Oui, mais lorsque tu comprends que tu n'as rien, alors tu commences à chercher malgré tout dans toutes ces opportunités. Et où peut être ici cette planche de saut, de train à train? Comment l'homme peut utiliser la société, sa société, pour arriver au-dessus de la raison? Regarde, ici, nous devons lutter contre le co-créateur, si l'on peut dire, contre la nature, contre tout ce qui se trouve en nous. Et c'est pourquoi cette transition n'est pas naturelle. Et là où il n'y a pas de naturel, moi, je dois trouver des forces qui ne se trouvent pas dans la nature, dans notre nature. Et ces forces sont les forces de la société, tout d'abord, que moi, je peux apprendre de telles actions qui ne sont pas naturelles pour moi. Et de la sorte, j'arrive au début de l'Ishma, ce qui veut dire que je suis prêt, je veux passer à ça, mais je ne sais pas comment. Et on m'en dit, comment tu vas le faire? Tu dois te représenter que l'Ishma est plus important que l'Ishma, ce que tu as en ce moment. Et je fais toutes sortes d'exercices. Oui, des exercices, des efforts, la prière pour réussir et un nouveau effort et ainsi, pardon, pas à ça.
Rabash
nous dit que lors du travail, que l'homme doit savoir deux choses, dans quel état il se trouve et quel est son but. De ces deux connaissances doit se développer un manque chez l'homme. Et ce manque, c'est la seule chose que l'homme doit apporter devant le Créateur. Tout le reste, l'homme lui donne la force de s'annuler, tout ce qu'il a besoin dans le chemin, à l'homme d'apporter uniquement le manque. Il nous écrit aussi que l'homme, du fait que le degré suivant, c'est un brouillard, on ne la connaît pas, elle n'est pas claire. Si on savait, mais non, pour nous, tout est pénombre, c'est pas clair. Donc, sur le degré suivant, l'homme est dans un manque de connaissances. Alors, sur ce manque de connaissances, il écrit qu'il faut s'unir avec les amis et recevoir de la sécurité, la force pour aller au-dessus de la raison, la foi au-dessus de la raison. Mais je veux continuer la question de Avi sur ce point. Nous, on vient à la société en tant que des gens qui ont besoin. J'ai besoin des forces de la société, autrement j'ai aucune possibilité. Mais nous avons un autre chapeau. Nous faisons partie des amis et ensemble, on doit créer le caractère de cette société, que ce soit un lieu où on donne de la force aux amis aussi. Et j'essaye de réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire, résoudre pour que notre société soit la source qui donne la force aux amis qui ont besoin, alors qu'ils sont dans une inconscience complète. Quels points nous devons, des points de repère que nous devons mettre par terre pour faire comprendre que c'est ça les bases de notre société? Et qu'on peut donner, vous avez dit que on doit recevoir que la foi soit plus importante que l'atteinte, qu'on ait de la force pour aller au-dessus de la raison. Qu'est-ce que nous devons, en quoi devons-nous investir pour créer une telle société, Rav? On doit investir dans le fait d'abord que nous apprenons comment sortir de nos désirs de recevoir et rentrer dans un tel désir qui va nous élever en haut et encore en haut. Et ce désir, c'est pas un désir seulement de donner les HPA. Lorsque nous le créons au-dessus de tous nos désirs, vraiment en parallèle. Et à nous de voir ce matériel, c'est pour nous élever. Et grâce à quoi on peut s'élever? Alors, à nous, constamment, d'être dans la, avec la société qui nous donne de l'importance de la, la spiritualité avant tout. Et aussi la bassesse de ce désir de recevoir au-dessous de tout. En fin de compte, c'est ce que nous devons créer. Et ceci doit être clair. Et ça se trouve de façon claire dans le cœur de l'homme. Et que selon ça, il considère déjà toutes sortes d'actions, des discernements, des valeurs sur ce qu'il est. À ce dont il veut s'approcher. Il y a encore beaucoup, mais je ne sais pas comment. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des amis de qui je reçois cette force. Moi, je me rends compte que je ne donne pas suffisamment de force. On doit apprendre comment créer cette société dont vous avez parlé pour qu'elle puisse nous donner des forces et être au-dessus de la raison. C'est comme si on doit apprendre ça des amis. Rabat, je dirige vous aussi. C'est quelque chose qui doit venir du rassemblement des amis qui ont la force et qui ont ça en eux. Et il y en a beaucoup qui l'ont. Et ils doivent tous nous enseigner comment adhérer à cette ligne. Oui. Sans aucun doute, ceci, on l'apprend de... de ces kelim. Et ma question, comment nous unir aux désirs et pensées des amis? Comment recevoir d'eux qui est opposé à moi, extérieur à moi, différent de moi? Il n'y a rien qui soit opposé ou extrême en dehors de toi. Dis-moi quoi? Par exemple, ces mêmes valeurs, ces mêmes... les mêmes choses que tout un chacun valorise. Nous donnons, et si nous tous on dédaigne les mêmes choses. Et s'il y a ceux qui sortent de l'ordinaire alors qu'ils quittent la société, et il y a ceux qui restent, qui se trouvent dans des mêmes buts, dans les mêmes raisons. Ça veut dire que nous cherchons chez les amis leurs désirs qui aspirent le Créateur. Absolument. Autrement, comment? Comment ils sont nos amis? Oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour se connecter à ces désirs? Qu'est-ce que c'est que de faire de cela un seul cli? L'élever au supérieur, c'est s'unir entre nous en un unique but. Et alors, nous commençons à nous connecter entre nous. Nous connectons nos désirs dans ce même but. Et on les connecte tous ensemble, tous ces désirs. Ça veut dire prendre la force des amis, de leurs désirs, de leurs aspirations. Oui, regardez comment on fait aujourd'hui dans toutes ces bombes ou ces fusées. On mélange toutes sortes de matériels explosifs et c'est ainsi que ça devient plus fort. Alors, nous voulons créer cette fusée d'amour, oui. J'essaierai de poser la question. Il y a deux étages. L'étage de spirit de physicalité et de spiritualité. Je suis dans le physique. Et il y a des amis qui peuvent il y a un ascenseur qui peut m'élever. Et disons que cet élévateur, c'est la société. Comment faire? alors que tous travaillent sur le but de la raison du but. Pour moi, qu'est-ce que c'est que presser un bouton de ce élévateur? Ça veut dire que toi, tu attends les mêmes valeurs que les autres et t'annuler envers eux pour ce même but. Et tu ajoutes ta force envers eux. Ascenseur, c'est le mot. Nous, dans ces deux dernières semaines, on parle beaucoup au sujet de au-dessus de la raison. Mais dans ma sensation, c'est privé. On essaye de ouvrir dans la raison comment aller au-dessus de la raison. Oui, c'est comme ça. C'est une approche juste au début, oui. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que c'est au-dessus de la raison. Mais on essaye de l'apprendre dans la raison. Est-ce que c'est possible? Oui, en principe, c'est ainsi que ça arrive. Et après de ça, on atteint l'ishma. Quelle est la prochaine étape alors qu'on fait cette vérification? Dans la raison, qu'est-ce que c'est au-dessus de la raison? Alors, comment on arrive? Quelle est la prochaine étape? Nous ne pouvons pas être dans l'utilisation du désir de recevoir, de nous élever par le désir de recevoir. Mais si nous nous élevons au degré de don plus élevé, et un don plus grand ne peut être que par un désir de recevoir encore plus grand, alors que nous nous élevons par lui. Oui, la question, le progrès au-dessus de la raison, c'est quelque chose de spécifique ou quelque chose de global vers le but et à une certaine étape, ça arrive. Ou il y a des étapes plus précis qu'on arrive et qu'on peut se concentrer. Rav, il y a et il n'y a pas. Je te dirais, c'est comme quelque chose qui ressemble à un ascenseur qui constamment s'élève et s'élève, mais comme dans une chaîne, dans une, disons, en sens comme un cercle. Et tout celui qui rentre, mais tout est selon les valeurs. Oui, mais est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'on peut vraiment les mettre en relief? Avant, on a parlé de l'état au-dessus. Non, non. On ne doit pas se représenter cette situation. Ça veut dire seulement presser, aller de l'avant, oui. Nous, on ne sait pas, puisque ça ne peut que nous remettre au point de départ. Parce que dans la sensation, c'est qu'il y a une porte qu'on doit pousser et rentrer. Non, non, non. C'est une entrée très large. Et que celui qui rentre, il s'élève. Oui, Moshe, quelle est la différence au-dessus de la raison et dans cette première désir, comme dans le physique, si je veux quelque chose, je n'arrive pas, eh ben, je vais au-dessus. Parce que dans le physique, alors que tu es au-dessus de la raison, ça te semble que c'est au-dessus de la raison, mais le calcul que tu fais, c'est dans ton ego. Oui, que ça vaut la peine. Alors que je ne ressens pas quelque chose dans la raison, mais j'ai des forces de la société et je peux m'élever au-dessus de ça. Oui. Alors, quelle est la différence dans ce, au-dessus de la raison dont on parle? Au-dessus de la raison, nous parlons de la spiritualité que nous cherchons dans notre monde, des forces qui peuvent nous aider à nous élever à un degré au-dessus de la raison. Et à ce degré, pour s'élever, nous ne pouvons le faire alors que nous nous y arrivons nous arrivons à respecter les lois qui ne sont pas logiques. Et c'est alors que nous avons besoin du soutien. Nous avons besoin de soutien. Et ces forces nous permettent de nous accrocher. Par exemple, dans ce monde interdit de manger du sucré, parce qu'on peut avoir maladie de diabète, est-ce que c'est vrai ou pas? Et moi, je crois et je suis ça. Ici, qu'est-ce qu'il y a de logique? On te dit, tu dois t'unir, d'accord, dans la raison, je ne peux pas, je ne suis pas capable, mais je fais quand même des actions pour m'unir. Vous pouvez donner un exemple, qu'est-ce que c'est qu'au-dessus de la raison? Un exemple pour qu'on puisse comprendre que nous sommes dans cette direction. Pour moi, c'est la même chose, mais quelle est la préférence par rapport au physique? Au-dessus de la raison, tu ne peux pas faire des calculs dans la raison. Toi, tu fais des calculs dans la raison et après, tu les changes au-dessus de la raison. Un exemple, s'il vous plaît. Exemple. Moi, j'ai besoin maintenant de passer à certaines actions. Que ces actions, je ne suis pas capable de les réaliser. Alors, moi, je rentre dans la société, je prends des valeurs, et des forces, et bien que c'est complètement pas bon, pas bien pour moi, ça ne vaut pas la peine pour moi, selon mon intellect, ce que je ressens, mais je les accepte sur moi, je les prends sur moi, et de la sorte, j'essaye de mon mieux de m'élever à un degré supérieur. Quelle est la différence dans le physique? C'est la même chose. Il y a plusieurs choses que moi, dans la raison, je ne les accepte pas. Je rentre dans la société. Et parfois, il y a des choses qui ne sont pas complètement compréhensibles. Je ne peux pas. En ce moment, je ne peux pas me concentrer. Oui, beaucoup en écrit sur au-dessus de la raison, mais toi, tu vois combien eux-mêmes, ils peuvent exprimer du fait que il n'y a pas d'exemple pareil dans ce monde. Oui, mais il y a un exemple, et Rabash qui a écrit sur ces 1000 dollars, alors qu'il rend l'enveloppe, qu'il y a $1, il te dit il y a 1000 dollars. Un exemple, on n'utilise pas cet exemple dans le physique, je ne me comporte pas ainsi. Si moi je te donne 1000 dollars et que tu me rends $1 dans une enveloppe, je ne peux pas te croire. On ne se comporte pas selon une telle loi. Je ne pense pas que tu aies raison dans cet exemple. Et c'est comme ça que je dois me comporter avec les amis. Si tu te comportes ainsi avec l'ami qui te rend la sensation de 1000 dollars et que tu as en réalité 1 dollar, alors quoi, je dois me taire? Oui, tu dois te taire. Pas contre, mais contre ce qu'on ressent. Chers amis, nous sommes Petah Tikva 23 et nous voulons dire combien la préparation au congrès est importante et nous espérons vraiment d'arriver à ce degré. Et on veut atteindre ce travail, le travail au-dessus de la raison, la foi au-dessus de la raison. En préparation, nous nous sommes tous enregistrés au congrès et on nous a donné l'honneur de diriger la Yeshiva Travelim pendant le congrès et que nous voulons vraiment atteindre avec toute la société ce degré. Rav, je peux poser une question? Oui? On voulait demander quel est ce travail que nous devons faire pendant la préparation pour que pendant le congrès, on ait le vrai manque pour l'utiliser au-dessus de la raison. Comment, moi, je dois être dans le don envers l'ami et la société, notre petite société et toute notre société pour nous les pousser tous vers ce degré d'au-dessus de la raison. Qu'est-ce que je dois faire pour les pousser vers ce degré au-dessus de la raison? Merci.